Les Kabyles existent d'abord par la parole. Chaque geste, chaque instant de leur quotidien peut donner lieu à une langue de vers, de métaphores, de proverbes. Dans ces contreforts montagneux dont ils sont les hôtes, l'ajout oratoire est d'ailleurs un exercice courant. Une réalité qu'on se présente mal lorsqu'on plonge dans la société de l'immigration où ces hommes et ces femmes, souvent analphabètes, sont relégués exclusivement au rang d'ouvriers et de femmes au foyer. On imagine alors mal les orateurs qu'ils deviennent lorsqu'ils retournent dans leur langue. C'est cette réalité qu'a voulu montrer Fatima Sisseni dans son film La langue de Zara. C'est sa mère, son quotidien, son histoire qui est mise à l'honneur dans ce long métrage et qui met à l'honneur l'ultime bagage que des milliers d'émigrants kabyles ont emporté. Elle nous présente dans cet entretien ce film et ce qu'il représente aussi bien pour elle que pour le public.
C'est un film sur l'immigration que j'ai traité à travers l'histoire de ma mère, qui est arrivée en 1976 en France et qui n'a jamais appris le français. Enfin, en tout cas, n'a jamais voulu l'apprendre parce qu'elle n'a jamais voulu vivre dans ce pays, même si elle y est restée pendant plus de 30 ans. Et donc, voilà, ça c'est une partie de son histoire. Et moi, j'ai voulu en fait traiter de cette question de l'immigration à travers la question la langue. Et donc, elle est originaire de Kabylie, donc en Algérie, et donc parle le kabyle, donc qui est une variante du berbère, qu'une langue orale. Et donc elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle ne sait pas, donc pas parler français. Et par contre, elle a toujours composé de la poésie orale. Pour moi, il s'agit d'un film sur les représentations. C'est-à-dire qu'on a toujours regardé ma mère comme la pauvre Zara dans sa cuisine, qui élevait ses gosses, considérant qu'elle avait peu de culture, puisqu'elle ne savait pas parler le français, et que de toute façon, c'était toujours l'image, et c'est toujours l'image qu'on a des immigrés, donc des gens sans culture. Or, moi, quand j'entendais ma mère, j'entendais une poétesse. Et quand j'entendais mon père, pareil d'ailleurs, puisque tous deux parlaient ensemble en kabyle, et c'était tout simplement une langue de poésie. Ce sont des gens qui ont toujours aspiré à l'excellence dans leur langue. Donc, et du coup, j'ai voulu un peu rétablir un peu les choses. Et finalement, ce film est pour moi une adresse à la société française pour dire, bah voilà, quoi, ces gens, ces hommes que vous avez toujours pris pour uniquement une force de travail, ces femmes que vous avez toujours considérées comme des femmes soumises, eh bien, ces gens-là sont tous des poètes en puissance. Donc, c'est pour moi un film, un hommage à la première génération d'immigrés algériens.
Pourquoi n'a-t-elle jamais voulu apprendre le français ?
Ben, comme je le disais, elle a immigré parce qu'elle n'a pas eu le choix et elle ne voulait pas quitter l'Algérie. Et je pense qu'apprendre le français, ça voulait dire s'installer et qu'elle, elle n'a jamais pris la décision de s'installer en France.
Vous pensez que la langue est la première barrière à l'intégration ? Est-ce qu'on peut considérer que votre mère était intégrée ou pas ?
Écoutez, moi, l'intégration, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je peux pas. J'ai un peu de mal à répondre à cette question. En tout cas, pour moi, la langue n'est absolument pas un frein à la possibilité de vivre dans un pays. Et je pense que le frein, si on veut reprendre le terme d'intégration, donc le frein à l'intégration des immigrés, c'est plutôt tous les préjugés qui animent la société française vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis des pays d'Afrique. Et la question du colonialisme, de la guerre d'Algérie pour ce qui concerne l'Algérie, de l'esclavage pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, eh bien, je crois que ces trois événements-là imprègnent énormément les imaginaires français et donc conditionnent une représentation de l'immigration. Voilà, je pense que c'est d'abord ça le premier problème. Je crois qu'il n'y a pas... Les immigrés n'ont pas de problème avec l'intégration, c'est les Français, c'est la société française qui a un problème avec ces immigrés. Et qui considèrent que de toute façon ces gens-là n'ont pas les capacités à vivre ici. C'est le principal obstacle, d'où la nécessité impérative de travailler sur l'histoire coloniale, sur l'histoire de la guerre d'Algérie et aussi sur l'histoire de l'esclavage et pour la colonisation de l'Algérie. Je rappelle quand même que de 1830 à 1962, l'Algérie était considérée comme un département français. On se souvient il y a quelques années du gouvernement français qui a souhaité faire voter une loi pour reconnaître l'aspect positif de la colonisation. Ça n'est tout simplement pas possible. Il ne peut pas y avoir d'aspect positif à une quelconque entreprise coloniale. C'est impossible. On ne peut pas partir de ce postulat-là. Donc tant que la France n'aura pas fait le travail qu'elle doit faire sur cette histoire coloniale qui a été d'une violence absolue. Et si on reprenait la définition d'un génocide tel qu'on l'entend dans notre époque moderne, eh bien, si on le calquait sur la colonisation, sur la conquête algérienne de 1830, eh bien, peut-être qu'on aboutirait à un génocide de la population algérienne. Voilà. Donc, il est impératif de revenir là-dessus. Il n'est pas question, moi je ne suis pas là en train de sur la question de la repentance ou quoi, je dis juste, voilà, faisons ce travail-là, de part et d'autre, mais faisons ce travail-là en France, et voyons ce que la France a fait en Algérie, et là, peut-être que la société française regardera les immigrés autrement, et les maghrébins autrement, et ce sera de les regarder comme des indigènes, puisque les Algériens étaient considérés, donc dans leur propre pays, étaient considérés comme des indigènes. Et c'est toujours cette représentation-là qu'on a d'eux, quand les immigrés algériens arrivent en France, on voit arriver des indigènes.
Est-ce que vous pensez que la France a du mal à assumer son passé, justement ?
Ah oui, elle a beaucoup de mal à assumer son passé, oui. Elle ne l'assume pas du tout. Ou alors, elle l'assume très bien, puisqu'elle considère qu'elle a apporté la civilisation en Afrique. Et... Non, je ne sais pas si elle assume ou elle n'assume pas, mais en tout cas, le message que la France a voulu porter a été quand même des plus violents.
Et le message justement que porte le film La langue de Zara, quel est-il ?
Eh bien, s'il y a un message, c'est à chacun de voir le message qu'il a envie de voir dans ce film. Hein. Moi, je dis juste que les immigrés sont porteurs d'une culture, sont porteurs d'histoires affectives, et qu'il faut leur reconnaître ça. Je veux dire, les immigrés n'arrivent pas en France sans histoire derrière. On a toujours tendance à regarder les immigrés arrivant en France, on a toujours tendance à les regarder comme des gens sans passé. C'est-à-dire qu'il y avait par exemple Abdelmalek Sayad, le sociologue Abdelmalek Sayad, qui travaillait beaucoup avec Bourdieu, qui disait l'immigré naît et meurt avec sa force de travail. C'est-à-dire que quand il arrive ici, il est bon pour travailler, et il cesse d'exister quand il ne peut plus travailler. Et donc c'est une manière de dire, non, les immigrés sont quand même au-delà de ça.
Peut-être que justement on ne parle pas assez de cette richesse culturelle qu'apportent les immigrés. Est-ce que justement ce documentaire, ce film que vous avez réalisé est une démonstration de cette culture, notamment kabyle?
Ah oui, non, ça c'est sûr qu'on n'en parle pas assez, mais moi je dirais déjà, considérons ces gens comme des personnes normales. Et oui, c'est évidemment, moi j'aborde là l'immigration à travers un prisme, pour moi, par le bout le plus beau de l'immigration, c'est-à-dire par la langue originelle. Quand on lit la littérature africaine ou créole, eh bien, on se rend compte de la richesse de ces langues orales, et il en va de même pour le berbère, qui est vraiment une langue qui porte d'abord une culture et puis une poésie absolument d'abord incontestable et immense. Donc les gens ont comme ça une pratique quotidienne de la poésie, on improvise quotidiennement de la poésie, c'est inouï. Je veux dire, en France, si on doit faire un parallèle, par exemple en France, quand on n'a pas été à l'école, on a un niveau de langue qui est assez pauvre, parce que la culture passe par l'école. Chez nous, ça se passe pas comme ça. C'est d'abord la transmission orale qui est importante. Ici, ça passe, en France, ça passe par l'écrit. En Algérie et en Kabylie, ça passe par la transmission orale. Donc on peut être bardé ou non de diplôme, c'est pas ça l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est la manière dont on parle. Et chacun, qu'il était à l'école ou pas, a cette capacité à acquérir une langue extrêmement riche, extrêmement sophistiquée, extrêmement soutenue, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Voilà. Et après, le parallèle, là, je fais un bond, mais le parallèle aussi qu'on peut faire, moi j'ai vu dans les différentes projections qui ont eu lieu dans différents coins de France, notamment dans le Cantal, mais aussi dans le Nord, les gens m'ont dit, mais en fait, là, vous êtes en train de nous donner à voir aussi une partie de notre histoire à nous, puisque les langues orales en France ont été niées. On a interdit à toute une génération de parler, par exemple, ou le provençal, ou l'occitan. occitan ou le ch'ti. Et du coup, il y a une transmission qui ne s'est pas faite d'une génération à l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, bah, voilà, mon grand-père parlait l'occitan, mais il n'a pas pu me le transmettre parce qu'on lui a interdit de le parler à l'école. Et c'est exactement ce qui se passe aussi avec les créoles. On interdit aux enfants créoles de parler le créole à l'école. Et donc, par la langue, il y a tout un imaginaire qui passe. Et si un jour, on vous interdisait de parler français, par exemple, à vos enfants, et qu'on vous oblige à parler une autre langue, eh bien, il y a toute une partie de votre histoire, mais aussi une partie de votre imaginaire que porte votre langue, que vous ne pourriez pas transmettre à vos enfants. Et c'est exactement ce qui s'est passé en France. Et donc là, il y a un parallèle. Et moi, j'étais très surprise et aussi très heureuse de constater le parallèle qui a été fait par ces gens entre la question du kabyle tel qu'il était posé dans ce film et de la question de la transmission et la question de l'oralité tel qu'il s'est posé en France avec extrêmement de violence.
Vous parlez kabyle ?
Oui, je parle le kabyle, oui.
Et ce sont vos parents qui vous ont appris de façon orale justement à parler cette langue ?
Oui, moi je parle kabyle depuis que ma mère m'a toujours parlé en kabyle, elle n'a jamais parlé une autre langue.
Justement, comment votre mère a vécu le fait d'être mise en lumière comme ça par un documentaire, par un film ? Est-ce que c'était difficile de filmer quelqu'un d'aussi proche ?
Enfin, pour moi, non, ça n'a pas été difficile, non. Ma mère, ça ne lui a posé aucun problème, en fait. Elle était assez tranquille devant cette caméra. Quant à moi, la chance que j'ai eue sur ce film, c'est que j'ai eu une confiance absolue de mes frères et sœurs, de ma famille, qui ne m'a jamais demandé de compte, qui ne m'a jamais demandé ce que j'allais montrer. Et j'ai été très soutenue dans ce projet. Peut-être que c'est ça, c'est l'une des principales difficultés quand on filme ses proches, quand on filme sa famille, c'est qu'on est tous... comme dépositaire de cette histoire, donc on peut pas montrer tout et n'importe quoi. Voilà, c'est la difficulté qu'on a quand on filme sa famille. Bon, moi je savais de toute façon ce que je n'avais pas envie de montrer, et je crois que mes frères et sœurs on était sur un consensus là-dessus sans se le dire. Voilà, donc du coup j'ai pas vraiment eu de problème de ce point de vue-là à filmer ma famille.
Quel est le ressenti des spectateurs que vous rencontrez suite à la projection ?
Bah, en fait il y a beaucoup d'émotions, les gens sont très touchés. Sont très touchés par le film et y a beaucoup de gens qui sont venus voir en me disant mais écoutez madame, nous on a toujours considéré que les étrangers devaient apprendre le français et en fait on s'est complètement trompé et on est vraiment passé à côté de quelque chose avec justement tous nos préjugés sur l'immigration, donc voilà, j'en suis très contente.
C'était le mot de la fin, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je suis maintenant avec Madame Boukalfa, bonjour.
Bonjour.
Donc vous venez présenter avec d'autres associations le film La langue de Zahra. Vous avez vu ce film, qu'en avez-vous pensé ?
Alors moi j'ai trouvé que c'était un très beau film qui permettait en fait de voyager un peu entre ici et là-bas, puisque ça parle d'une dame assez âgée qui vit en France et qui parle un peu de comment elle se sent quand elle repart en vacances, etc. Ça permet aussi aux gens qui n'ont pas vu la Kabylie déjà de voir les beaux paysages qu'ils ont et aussi de comprendre un peu comment réfléchissent les personnes qui viennent de là-bas. Parce que beaucoup de gens pensent que les personnes programment de venir, qu'elles n'attendent que ça. Et cette vieille dame leur donne une leçon en disant qu'elle, si elle avait eu le choix, elle ne serait jamais venue.
Vous êtes vous-même kabyle,
oui.
Berbère. Justement, vous pensez que ce film est un très bon démonstrateur de cette culture ?
Alors, je dirais que c'est un petit morceau de notre culture, puisqu'elle parle beaucoup de la langue kabyle, qui est la racine principale de la culture kabyle, mais aussi berbère en général. Et par contre, il est assez court, donc... La culture berbère est quand même assez vaste, donc elle montre un volet, on dira.
C'était important pour l'association Tiwizi d'être là et de présenter ce film en co-animation avec Vinem France, par exemple, et une autre association ?
Alors nous, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, donc avec Fleur des Îles, Vinem France et l'association Zodo, sur des projets autour des droits des femmes déjà. Donc on a 2 années de suite proposé un film débat sur les droits des femmes. au mois de mars. Et puis cette année, au mois de mars, on n'a pas pu le faire, donc on a décidé de le faire au mois d'avril. Et comme pour les Berbères, le 20 avril est une date très importante, c'est la commémoration du printemps berbère, donc des émeutes qu'il y a eu en 80, on a choisi la date du 19, la veille, et en même temps pour parler des droits des femmes, mais aussi de la culture berbère en général.
La femme berbère est au cœur justement de ce film. Est-ce que vous avez retrouvé peut-être quelque chose de déjà vu, de déjà connu?
Ah oui, moi j'ai retrouvé quelque chose de déjà vu parce que quand même j'ai quitté la Kabylie adulte, donc ce que raconte cette dame, je l'ai vécu et puis j'y retourne régulièrement, donc je vois bien comment vit ma mère, mes tantes, etc. Donc oui, c'est vraiment un film authentique, c'est pas un film fiction.
Que diriez-vous aux autres spectateurs pour leur donner envie d'aller le voir?
Ben, ce que je peux leur dire, c'est que s'ils veulent découvrir déjà un pays où les gens ne peuvent plus aller beaucoup et découvrir des gens simples dont la vie est très simple et mieux connaître les autres, puisque nous c'était le but, c'était aussi ça, c'est de mieux connaître l'autre pour mieux l'accepter, ils peuvent y aller. C'est un film très sympathique, il est sous-titré même si c'est en kabyle. Entendre la langue kabyle est une langue très chantante, donc ça peut être agréable à l'oreille. Et puis c'est un film tout simple. C'est ce que j'ai beaucoup aimé.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Je vous en prie.
C'était Fatima Sisseni, réalisatrice de La Langue de Zara, et Madame Boukalfa, présidente de Tiwizi, qui nous présentait un aperçu de la culture kabyle à travers ce film. Une interview réalisée et montée par Rodolphe Pereira.